Radio Django. Vivre à Lausanne.
Autrement ça va est un collectif formé par quatre espaces de débat lausannois. L'espace Dickens, la maison de quartier Sougar, Alliance Sud, Infodoc et Pôle Sud. Jusqu'au mois d'octobre, ces lieux vous invitent à participer à une série d'événements autour d'un thème commun consacré aux multinationales. Au nom du profit, tout est permis, auquel Radio Django s'est associé. Après s'être intéressé à l'industrie électronique, au pétrole et au textile, cette quatrième émission propose de mieux comprendre le négoce dans le domaine de l'alimentation. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Fabio, Samuel Benatan, maître d'enseignement de recherche à HEC, de la Faculté des hautes études commerciales de Lausanne et député socialiste au Grand Conseil vaudois.
Oui, on parle souvent d'escalade des prix des denrées alimentaires qui font régulièrement basculer des couches entières de la population dans la pauvreté. Plusieurs causes sont avancées, notamment le jeu d'équilibre entre l'offre et la demande, la mutation croissante de culture alimentaire en culture destinée aux agrocarburants, ou encore la demande qui gonfle à mesure que la population mondiale croît. Bien d'autres facteurs entrent en jeu dans la formation des prix alimentaires et l'un d'eux est de plus en plus pointé du doigt, même s'il reste sujet à controverse, il s'agit de la spéculation financière. Dans cette première partie de l'interview, Samuel Bendaon dresse un tableau général en insistant tout d'abord sur la différence entre investissement et spéculation, entre création de valeur et dynamique de boursicotage.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de spéculation, il y a un élément qui est clé, c'est le temps. C'est-à-dire, quand on parle d'investir quelque chose, de l'argent par exemple, ben en fait, on met de l'argent à disposition de quelqu'un d'autre, il prend cet argent, il en fait quelque chose, il le fait fructifier, il l'utilise pour créer une entreprise. Et puis après, plus tard, ça fait des profits ou ça crée de la valeur. Et puis finalement, celui qui investit retrouve son argent et un peu plus. Ça, c'est un investissement. La spéculation, c'est un peu différent. L'idée de spéculation, c'est l'idée d'essayer de faire des profits aussi, mais à très court terme. C'est-à-dire, je donne de l'argent, mais je rachète tout de suite et je fais un petit profit à ce moment-là. Et je le fais beaucoup de fois. Donc derrière l'idée de spéculation, contrairement à l'investissement, il n'y a pas vraiment de création de valeur. C'est un petit peu comme un grand casino. Dans le domaine alimentaire, bah évidemment, ça va être d'acheter et de revendre très vite des cargaisons de nourriture en espérant que tout d'un coup, elles prennent de la valeur. Et puis de gagner de l'argent en fait sur les produits alimentaires et donc sur la faim des autres.
Qui spécule aujourd'hui ?
Beaucoup de gens peuvent spéculer. Ça va être des entreprises, des banques, des sociétés d'investissement, des hedge funds, donc c'est des fonds de placement alternatifs, des gens très riches qui sont dans de nouvelles quêtes de profit, et parfois même des fonds de placement ou des fonds de pension, hein, par exemple des caisses de pension où il y a vos retraites. Certains d'entre elles utilisent des fonds de placement alternatifs où il y a de la spéculation sur les denrées alimentaires. Mais en Suisse, c'est quand même très peu de cas.
Est-ce qu'un État a intérêt aussi à ce qu'il y ait de la spéculation sur les denrées alimentaires qui sont produites sur son territoire ?
La spéculation en elle-même n'apporte pas de valeur, puisque le spéculateur achète et vend, mais ne crée rien, ne travaille pas, ne crée pas de nourriture. Donc en fait, c'est toujours un problème. Il y a certains types d'opérations financières qui sont bonnes, par exemple l'assurance. Hein, un assureur qui va, permettre à quelqu'un d'acheter avec une prime d'assurance une assurance, par exemple, si une année se passe très mal, de pouvoir garantir un revenu aux gens, c'est une bonne chose. Donc c'est une activité qui se rapproche de la spéculation, puisque c'est une activité financière, mais qui est encore utile. Les spéculations à court terme, l'algo trading, donc l'utilisation de machines pour gagner de l'argent très vite, ça c'est vraiment totalement inutile.
On a bien compris la dynamique générale, qui ne doit pas être très différente d'ailleurs de celle qui touche d'autres matières premières, Fabio.
Oui, en effet, mais il y a quelques particularités, bien entendu, puisqu'on parle de nourriture, un bien et un droit quotidien pour les populations. On va un peu davantage sur le terrain avec quelques exemples de spéculation.
Bon, il y a pas mal d'exemples, puisque tous les jours, au fait, la spéculation fait une majorité écrasante des transactions financières. Donc tout ce qui se passe a derrière soi une clé de lecture qui est la spéculation. Mais on peut imaginer, par exemple, les grèves, les mouvements de la faim qu'on a eus il y a quelques années, où des gens avaient acheté massivement des droits de nourriture pour le futur. Hein. Vous achetez aujourd'hui pour dans 5 ans de la nourriture, et puis tout d'un coup, la nourriture explose, et les gens qui ont vendu la nourriture n'ont même pas les moyens d'acheter leur propre nourriture parce qu'ils l'avaient vendue il y a 5 ans, et donc du coup, ils meurent de faim. Bah, en fait, quand il y a eu la crise des subprimes, il y a plein de gens qui avaient plein d'argent à mettre quelque part, et puis ils ne savaient plus où le mettre, puisqu'il y a eu la crise des subprimes, donc ils ont cherché d'autres marchés sur lesquels amener cet argent et spéculer. Et puis évidemment, le domaine alimentaire était l'un des domaines qui a été utilisé.
Est-ce qu'il y a des matières premières dans l'alimentation, toujours, sur lesquelles se concentre davantage la spéculation plutôt que d'autres ?
Bon, les matières premières, ce n'est pas que de l'alimentaire d'ailleurs, hein, on va avoir beaucoup de spéculations sur des autres matières comme le pétrole ou d'autres domaines, hein, on voit bien d'ailleurs les fluctuations du prix du pétrole qui sont assez massives et d'ailleurs qui ne se retrouvent pas toujours à la pompe à essence, donc on voit bien qu'il y a une différence entre le marché financier et puis ce que les consommateurs bénéficient ou ne bénéficient pas. Maintenant, il y a des matières qui vont être par exemple spéculées dessus parce qu'elles sont pratiques à prévoir à l'avance ou difficiles à prévoir à l'avance, vous avez, je sais pas, le blé par exemple, si vous avez des cultures, vous ne savez pas au moment où vous semez votre blé, vous ne savez pas encore comment va se passer la récolte. Et donc, on peut avoir de la spéculation là-dessus. Donc, ça va beaucoup être des matériaux qui sont destinés à être mis sur les marchés internationaux. Il y aura beaucoup de spéculation sur des choses qui sont produites dans un pays puis revendues dans un autre pays. Il y aura moins de spéculation sur des marchés locaux, c'est-à-dire des produits qui sont uniquement produits localement. On aura moins de spéculation puisque il y a une proximité entre le marché et puis les producteurs. Mais ce qui va se passer, c'est que si les producteurs n'ont pas les moyens de développer leur propre industrie, leur propre production, leur propre récolte, ou n'ont pas les moyens de vivre pendant qu'ils sont en train de récolter, ils doivent trouver de l'argent. Et le problème, c'est que quand les spéculateurs leur donnent cet argent-là, en fait, eux, ils vont continuer à racheter et revendre sur le marché après. Et donc, si on veut, celui qui produit n'est pas directement aux prises avec un spéculateur, puisque lui, il va avoir quelqu'un qui va lui prêter de l'argent. C'est ce qui se passe après qui sera la spéculation. Donc, en fait, lui va peut-être avoir de l'argent par un investisseur, mais après, l'investisseur va revendre, et ça va être revendu. Et la spéculation a lieu là, et c'est ça qui va influencer sur les prix, et qui va faire qu'en fait, malheureusement, les producteurs n'arrivent pas à trouver de l'argent autrement qu'avec des gens qui veulent faire du profit très rapide à court terme. Donc, en fait, ils sont prisonniers du système.
Est-ce que l'alimentation façonne le système géopolitique global ? Y a-t-il des contraintes nationales ou internationales, des pressions politiques qui influencent les flux de production et de distribution, Fabio ?
Ce sont des dynamiques très complexes, ne serait-ce qu'en raison, par exemple, des mesures protectionnistes prises par les États. Mais on écoute Samuel Bendaon.
La production alimentaire, c'est évidemment un enjeu stratégique pour tout le monde. C'est un des rares besoins quand même absolument fondamentaux avec la santé, avec le logement. Donc évidemment, ce qu'on arrive à produire comme aliment, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui est dangereux aussi, c'est que si des spéculateurs peuvent posséder une partie importante d'un marché à travers des spéculations, par exemple en achetant massivement quand il y a des chutes de prix, on peut imaginer que tout d'un coup, quelques personnes avec beaucoup d'argent ou quelques institutions avec beaucoup d'argent aient un contrôle sur une proportion trop élevée de la nourriture et peuvent, par leurs décisions stratégiques, affamer les populations. C'est ce qui est très dangereux aussi, c'est que derrière cette spéculation et derrière cet argent, il y a de la possession de choses très utiles, qui est l'alimentation, et donc un grand danger.
Est-ce qu'il y a des pressions politiques sur les marchés financiers concernant l'alimentation ?
Les pressions politiques aujourd'hui sur les marchés sont quand même relativement faibles, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'acteurs qui se battent pour changer ça. Alors quand je dis pas beaucoup, je dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se battent pour ça. Il y a plein d'ONG, plein de même de partis politiques qui s'engagent contre la spéculation sur les denrées alimentaires. En Suisse, on a une votation sur le sujet. Mais le rapport de force aujourd'hui n'est pas en faveur des gens qui veulent combattre la spéculation, il est plutôt en faveur des autres personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, la pratique elle est quand même là. Après, il y a quand même des choses qui se font. Il ne faut pas croire qu'il n'y a rien qui se fait non plus. Il y a quand même à chaque fois qu'il y a une crise massive, il y a quand même aussi des volontés de réguler, une volonté de calmer la population. Donc, de temps en temps, certains marchés sont régulés. Des entreprises font aussi des choses pour essayer de limiter la spéculation dans certains cas. Donc, certains acteurs essayent d'agir, mais jamais assez pour qu'on puisse régler le problème.
Et est-ce qu'il y a des régulations en termes internationaux, la FAO par exemple ?
Il y a quelques régulations qui se mettent en place dans certains pays, mais il faut bien se rendre compte que c'est très peu. Et qu'en plus, la réalité, c'est que c'est très difficile de réguler quelque chose comme ça qui a cours au niveau international, puisque si un pays décide de réguler ça, ou même une organisation internationale, il suffit que des paradis fiscaux décident de s'en foutre joyeusement, et puis ça déplace simplement le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place des politiques mondiales et essayer de faire que ces politiques soient mises en place de façon à empêcher les gens de fuir les régulations nationales.
Très intéressant. On revient maintenant sur le sol helvétique, Fabio, où les acteurs de l'agroalimentaire réalisent des énormes profits. Tiens.
Oui, et ces multinationales influencent fortement la politique alimentaire mondiale sans nécessairement faire de la spéculation, comme nous le dit notre invité. Elles sont néanmoins bien établies en Suisse pour profiter des conditions cadres très intéressantes, et notamment au niveau fiscal.
les acteurs de l'agroalimentaire ne sont pas forcément des spéculateurs, même si eux aussi ont un impact sur le marché de l'alimentation, puisqu'ils ont une immense influence sur les marchés des producteurs. Ils mettent une énorme pression sur les prix, par exemple. Donc ils influencent aussi massivement la politique alimentaire mondiale, mais pas forcément par la spéculation, plus par leur pouvoir d'achat, par exemple. Pour l'instant, et avant la réforme de l'imposition des entreprises 3, les entreprises multinationales ont des impôts privilégiés. Même après la réforme de l'imposition, elles auront des impôts extrêmement bas d'après ce qui est prévu actuellement. Donc c'est clair que les conditions fiscales de la Suisse, elles sont particulièrement bonnes pour les multinationales, et pas seulement les conditions fiscales, toutes les conditions cadres. Hein, vous avez des éducations de qualité, vous avez des infrastructures très bien, vous avez un niveau de vie élevé. Donc c'est vrai que la Suisse est un havre d'accueil et de paix pour ces entreprises, ce qui explique aussi le succès de la Suisse économique. La Suisse est très riche parce qu'elle a beaucoup de sociétés multinationales et parce qu'elle a beaucoup de ça. Mais il ne faut pas oublier un petit détail, c'est que nous vivons extrêmement bien en comparaison internationale grâce à ces sociétés multinationales notamment et à leur activité économique. Mais évidemment, ça veut dire que d'autres pays autour de nous, et beaucoup de Suisses s'en foutent, hein, mais beaucoup de pays autour de nous vivent moins bien parce que ces sociétés ne s'établissent pas ailleurs qu'en Suisse. Alors vous avez une stratégie simple, par exemple, hein, vous produisez en Afrique, vous vendez, je sais pas, en Amérique, et puis vous dites la Suisse achète en Afrique pour rien du tout, elle revend aux États-Unis pour très très cher, et donc en fait en Suisse on fait un énorme profit parce qu'on a acheté pas cher et revendu très cher, alors que l'entreprise en Afrique fait aucun profit et puis l'entreprise en Amérique fait aucun profit. Donc en fait vous déplacez les profits dans les pays où les impôts sont bas, et où les conditions cadres sont meilleures, et puis vous ne laissez pas les gens dans lesquels on a produit la valeur profiter de cette valeur.
Notre invité Samuel Bendahin était d'ailleurs un des fers de lance de l'initiative lancée par les jeunes socialistes suisses pour lutter contre la spéculation sur les denrées alimentaires.
Oui, initiative qui a été rejetée à 60% par le peuple le 28 février dernier, mais qui a eu le mérite d'avoir au moins lancé le débat. On écoute.
Le but d'une initiative comme celle-ci, c'était vraiment d'essayer de dire mais on doit au moins attaquer les pires formes de spéculation qui ont lieu dans ce pays, en disant qu'il ne devrait pas être possible de faire une opération financière uniquement pour profiter à court terme. Donc ça ne s'attaquait pas aux assurances, justement, ça ne s'attaquait pas à toutes les opérations financières, mais vraiment aux plus odieuses et aux pires d'entre elles, l'algo-trading par exemple. On a perdu parce que c'est clair que les gens ont peur aujourd'hui, et il faut savoir que malheureusement, enfin, vous ne le voyez pas qu'en Suisse, hein, la plupart des pays ont quand même un renfermement sur eux ces temps. Et puis quelque part, c'est quand même un débat assez bête, c'est est-ce qu'on s'intéresse au bien-être des gens qui ne sont pas dans nos frontières ou pas. Et puis c'est vrai que si un pays comme la Suisse régule ça, et ben en fait il fait un cadeau à la planète, il fait un cadeau à l'humanité. Et puis je crois qu'aujourd'hui les gens ont peur pour leur emploi, pour leur vie, pour leur situation, et donc sont moins intéressés à celle des autres.
Mais le débat, il était quand même intéressant par rapport à cette initiative, le débat qu'il a suscité dans les différentes couches et politiques et de la population civile.
Le débat était intéressant parce qu'on n'a pas pu mettre en lumière un thème qui est peu mis en lumière. Donc oui, c'est un débat qui était intéressant. Et le but, à mon avis, dans ces débats-là, c'est de reconstruire un rapport de force, c'est-à-dire de remettre sur le terrain ces thématiques-là et d'autres pour arriver à des solutions, puis pour convaincre les gens. Tant qu'on n'aura pas convaincu les gens dans les pays démocratiques qu'on doit améliorer la vie de tout le monde, qu'on est une planète et qu'on a tous un destin commun, et puis que si nous détruisons cette planète, nous la détruirons ensemble et pour tous, et si nous construisons cette planète meilleure, nous le ferons ensemble et pour tous, tant qu'on n'aura pas convaincu les gens de cela dans les pays démocratiques, on n'avancera pas. Donc c'est clair qu'il faut mener ces débats.
Quelles sont les autres pistes qu'entrevoit notre invité à travers sa lunette d'économiste et de militant politique pour s'attaquer aux multinationales qui échappe aux impôts, Fabio?
Beaucoup de pistes, en fait, qui s'apparentent résolument à un programme politique global qui ne pourra se réaliser, d'après lui, qu'avec le concours de tout un chacun par des actions collectives. La participation individuelle ne pouvant pas suffire à changer les fondements de la société. Mais on écoute cette dernière partie de l'entretien.
Je pense que les actions politiques les plus efficaces auront lieu au niveau international, s'il doit avoir lieu. Hein. Contrôler la fiscalité des entreprises, s'attaquer aux multinationales qui fuient les impôts. Et ce qui se passe en Suisse, c'est de loin pas la pire chose qui existe. Il y a des multinationales qui évadent encore plus les impôts dans plein de domaines. Et évidemment, mettre en place des taxations des profits. Le vrai problème aujourd'hui, il faut bien le comprendre, c'est pas les revenus seulement. Évidemment, les revenus sont inégaux et c'est un problème. Mais il y a pire, il y a la fortune, la possession. Nous sommes arrivés dans une situation où certaines personnes, très peu de personnes, possèdent énormément. Et c'est cette possession qui les rend puissants et qui leur donne la possibilité d'avoir encore plus d'argent. Il faut s'attaquer à ça, au fait que dans le futur, si on continue comme ça, on va avoir une industrie beaucoup plus, de plus en plus mécanisée. Vous aurez 0,01% de la population mondiale qui possédera 90% de l'outil de production, de la capacité de produire des choses. Donc, il faut mettre en place des politiques pour redistribuer la fortune, redonner à la population la propriété des moyens de production et la propriété des choses. Donc il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Supprimer la propriété intellectuelle, mettre en place une taxation des transactions financières, des gains en capitaux, supprimer l'héritage, imposer la fortune. Toutes ces choses-là sont des pistes, évidemment, qui sont aujourd'hui très peu populaires, mais qui sont la seule voie possible pour remettre l'humain au centre de notre société.
En attendant que ça n'arrive un peu à ses résultats, le citoyen lambda, il fait quoi ?
Aujourd'hui, le citoyen lambda doit s'engager. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice, et je sais que peu de gens ont envie de le faire, peu de gens ont le temps, on a tous nos préoccupations, on s'en fout, ouais. Mais le but de tous les gens aujourd'hui qui s'engagent, c'est juste de convaincre plus de gens de s'engager. Mais c'est horrible, hein, on a envie de faire tout de suite, mais on peut pas faire tant qu'on n'a pas assez de gens. Mais j'ai pas aujourd'hui une recette de choses à faire parce qu'on n'est pas assez pour le faire.
Alors ça, c'est pour imaginer des changements collectifs, mais dans la vie de tous les jours, peut-être il faudrait qu'on décroisse un peu, il faudrait qu'on vive un peu autrement aussi. Est-ce que c'est aussi des recettes qui peuvent influencer un débat beaucoup plus général sur le changement politique de fond ?
Bon, la décroissance en soi, elle n'a pas de sens, hein, ça n'a aucun sens de dire qu'on doit décroître. Ce qu'on doit décroître, c'est la consommation des ressources naturelles qui sont limitées. Donc ça, on décroît, on n'a pas le choix. Après, ce qu'on produit comme valeur, disons moi, si on produit des milliards de francs de biens culturels qui ne consomment pas trop de ressources naturelles, moi je m'en fous, on croise, tant mieux. Si on a plus de bien-être, meilleure santé, si on mange mieux, c'est bien. Maintenant, le problème, c'est qu'évidemment, il faut faire attention. Il ne faut pas croire qu'en consommant un peu moins, et puis en achetant des ampoules écologiques, et puis en roulant en hybride, on va améliorer le problème. On peut améliorer un peu, mais tant qu'on n'a pas des actions massives qui sont faites au niveau de civilisation, au niveau global, au niveau de pays, au niveau de population, les actions individuelles des gens seront juste absolument insuffisantes. On n'arrive pas tout seul à baisser d'un degré le réchauffement climatique. Il faut des actions collectives. Alors, que les gens soient sensibilisés, qu'ils trient leurs déchets, etc., c'est pas mal. C'est pas un mal en soi, mais c'est pas suffisant du tout. Et il faut pas que les gens, en triant leurs déchets, se disent « moi je fais mon dû, c'est pas assez ». Mais par contre, il faut pas croire que ce qu'on veut, c'est une décroissance. La décroissance, c'est pas en soi un objectif. Ce qui est un objectif, c'est de vivre d'une façon à ce que notre planète puisse continuer à nous faire vivre et à faire vivre nos enfants, leurs enfants et nos futurs petits-petits-petits-enfants. Et ça, c'est l'unique objectif. Aujourd'hui, on est absolument loin de
Merci Fabio pour cet entretien de Samuel Bendahin, maître d'enseignement et de recherche à HEC Lausanne et député socialiste au Grand Conseil vaudois. C'était la quatrième et dernière émission de la série « Le travail se fait ailleurs, mais les profits reviennent ici » pour porter un regard radiophonique sur les multinationales. Deux petits mots sur ces émissions. Quel bilan, Fabio ?
C'est un domaine extrêmement dense et complexe parce que le négoce des matières premières est un vaste terrain d'investissement, de spéculation et de montage financier, mais aussi d'injustice crasse, d'esclavagisme, de concentration de pouvoir et d'argent non redistribué comme il se devrait. Cultivateurs et extracteurs, on l'a entendu lors de ces émissions, ouvrières de textile et de l'électronique, pour ne nommer que celle-ci ou ceci, travaillent dans des conditions terribles pour la richesse de peu et pour notre confort quotidien et ne retirent pas de quoi vivre dignement, même pas de quoi vivre tout court. On a parlé sur Django de plusieurs observateurs, ONG, partis et autres organisations qui font un énorme travail d'enquête, de vulgarisation, de lobbying auprès des décideurs pour changer cet état de fait. Pas très loin de nous, de chez nous, la déclaration de Berne, Suicide, Pain pour le prochain et tant d'autres dont les publications nous renseignent sur les situations. Leur site fourmille de renseignements, de propositions, d'exemples, de luttes et d'actions collectives. Tout le monde n'y va pas de la même solution, mais c'est peut-être cela qui est intéressant et finalement efficace, l'important étant qu'au centre de toutes ces initiatives, il y a la lutte pour la dignité humaine, ici et ailleurs.
Merci Fabio. On peut rappeler que plusieurs autres événements se tiennent jusqu'en octobre sous le sigle « Au profit, tout est permis », et ceci dans plusieurs lieux à Lausanne. Vous pouvez retrouver tout le programme de ces événements sur le site autrementsava.ch.